Merci Seigneur Esprit Saint, merci de venir dans notre cœur, merci d'être là. Viens nous bénir Seigneur Esprit Saint, viens nous donner ta paix. Amen, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Alors, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà, donc ce soir, je vous ai lu une partie de l'enseignement de Jésus sur la montagne, un enseignement que saint Matthieu rappelle dans son évangile. Jésus est monté sur la montagne. Comme Moïse, pour obtenir, Moïse était monté sur la montagne pour avoir les tables de la loi. Et donc Jésus est le nouveau Moïse qui vient nous donner la loi nouvelle, la loi de l'Esprit Saint. Et cette loi nouvelle, elle commence par le discours des béatitudes, qui est absolument magnifique. Tellement magnifique que même des personnes qui ne sont pas chrétiennes apprécient ce discours, comme quelqu'un qui m'a raconté une fois qu'il est allé dans un taxi et que il y avait le discours des béatitudes qui était marqué sur le dossier du conducteur pour que le passager puisse le lire pendant le voyage. Et le conducteur, ce n'était pas un chrétien, c'était un musulman, mais il avait trouvé ce discours tellement beau qu'il avait mis sur le dossier de son fauteuil pour que tout le monde puisse le lire pendant le voyage. Ce discours des béatitudes signifie que Jésus nous appelle au bonheur, pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur du royaume des cieux, un bonheur qui est différent, et que si nous vivons la vie morale, si nous essayons de mettre en œuvre les paroles de Jésus, de nous convertir, c'est pour aller vers le bonheur. Certains pensent que la morale chrétienne, c'est une morale qui est là pour nous embêter, pour nous empêcher d'être heureux, pour frustrer nos envies, nos désirs. Pas du tout. Le Seigneur, c'est lui qui nous a créés, donc il sait exactement où est notre bonheur, comment nous allons l'acquérir. Et au cœur de ce discours, où est résumée, d'une certaine manière, la loi du Nouveau Testament, la loi nouvelle, eh bien, il y a cet enseignement sur l'amour des ennemis, qui constitue une spécificité du christianisme, puisque cet amour des ennemis, à ma connaissance, n'est inscrit nulle part ailleurs que dans cette loi nouvelle, même si on la trouve déjà, on commence déjà à l'énoncer dans le judaïsme. Mais quand vous prenez la loi de l'Ancien Testament, vous voyez qu'à des moments, le Seigneur dit plutôt qu'il faut, semble dire, que ses adversaires, il ne faut pas les ménager. Mais n'empêche que progressivement, Dieu a amené son peuple, les Juifs, à aller vers l'amour et la miséricorde, et tout cela trouve un sommeil, un accomplissement en Jésus. J'ai tapé sur Internet, je voulais retrouver ce texte, enfin, je ne me rappelais plus où c'était, dans saint Matthieu, parce qu'en ce moment, je suis un peu fatigué, c'est la fin de l'année, je suis enseignant, je suis comme vous, on est sur les rotules. Bon, et j'ai tapé « Amour des ennemis ». Et alors, sur ce qui m'est apparu, il y avait un titre, il y avait marqué « Comment se débarrasser de vos ennemis ». Évidemment, ce n'est pas ce que je cherchais, mais c'est un jeu vidéo, c'est « Comment se débarrasser de vos ennemis ». Alors, vous me direz, c'est qu'un jeu, c'est que des ennemis virtuels, c'est pas grave. Mais quand même, ce jeu flatte le désir qui est parfois en nous, de vouloir se débarrasser de nos ennemis. Et à défaut de se débarrasser de nos ennemis réels, on va se débarrasser de nos ennemis virtuels, ce qui donnera une certaine satisfaction. Mais vous voyez que, quelque part, quand quelqu'un nous a fait du mal, eh bien, instinctivement, parfois, la première chose qu'on lui souhaite, c'est du mal. Pas parce que Dieu nous a créés comme ça, mais parce que, dans notre cœur, il y a une blessure profonde. Et donc cet enseignement d'aimer les ennemis n'est pas évident, et même pour certains peut paraître scandaleux, surtout quand les ennemis nous ont fait beaucoup de mal et qu'ils ont parfois détruit notre vie. Alors, remarquons que dans le texte, il y a marqué « Tu haïras ton ennemi », Mais on peut aussi traduire d'une autre manière, alors je ne vais pas rentrer dans les discussions d'exégèse, on peut aussi traduire « tu n'as pas à aimer tes ennemis ». Tu n'as pas à aimer tes ennemis. C'est une autre version un peu plus soft. Tu ne dois pas forcément les haïr, mais tu n'as pas besoin de les aimer. Bon. Alors, pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis ? Ben, tout simplement, le texte le dit, parce que notre Père du ciel est le Père de tous les hommes. Donc, nos ennemis, ce sont aussi ses enfants. Donc, lui, il les aime à titre de Père. Il ne les aime pas pour le mal qu'ils font, mais il les aime parce qu'il est le Père de tous. Il les a créés. Et comme Jésus le dit, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, comme il y a du soleil sur les bons et les méchants. À un moment donné, les apôtres demandent à Jésus de faire descendre la foudre sur un village samaritain qui ne les a pas reçus, et Jésus est très en colère contre Saint Jean qui demande que le Seigneur fasse descendre la foudre sur les méchants. C'est ce qu'on aimerait bien parfois, que le Seigneur zigouille les méchants, qu'il n'y ait plus les bons, que les bons sur cette terre. Mais le problème, c'est que si on fait comme ça, qui d'entre nous est sûr de rester sur la terre ? Parce que... On pense toujours que les méchants, c'est les autres, mais est-ce que nous, il n'y a pas ensuite peut-être des choses qui ne sont pas parfaites dans notre cœur ? Est-ce que nous, on échapperait à cette vengeance de Dieu ? Donc le Seigneur, il ne faut pas oublier aussi que le Seigneur est mort sur la croix alors que nous-mêmes, nous étions ses ennemis. Quand il est mort sur la croix, tous ceux qui étaient devant lui, qui nous représentaient, c'est le monde, c'est la foule, eh bien, ils le crucifiaient. Donc ça veut dire que sans la grâce du Christ qui nous sauve, pour ceux qui l'ont reçu, eh bien, nous serions comme cette foule en train de crier à mort face à Jésus qui est en train de mourir dans d'horribles souffrances. Notre cœur serait dans une telle violence que nous serions aussi capables de le faire cela. Il ne faut pas croire que nous, on n'est pas capables de faire des grands péchés. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Si je n'ai pas fait de grands péchés, c'est parce que Dieu m'en a empêché. Il m'a évité de faire cela, mais j'aurais très bien pu en faire. » Et c'est une vérité que de le dire. Jésus nous a aimés nous-mêmes alors que nous étions ses ennemis, et il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous devons faire la même chose pour les autres, parce qu'il faut offrir à nos ennemis la possibilité de se convertir. Aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire que je vais éprouver des sentiments forts pour eux. Nos sentiments, on ne les maîtrise pas. Donc ça, c'est si on nous a fait mal, le sentiment qu'on va vivre, ça peut être la colère, ça peut être même un sentiment de haine. Mais au niveau de notre volonté, nous pouvons quand même orienter nos pensées et en priant pour nos ennemis, progressivement, bah peut-être que nos sentiments vont aussi changer. Ça ne va pas se faire en 30 secondes, mais ils vont aussi changer. Et donc pour Jésus, aimer nos ennemis, ça veut dire d'abord prier pour eux. Prier pour eux, c'est la première chose. Et quand nous prions pour nos ennemis, parfois on s'aperçoit que notre attitude vis-à-vis d'eux change. Et puis on se demande pourquoi, mais nos ennemis deviennent bons avec nous. Parce que peut-être il y avait quelque chose dans notre manière de faire, dont on ne s'était évidemment pas aperçu, qui faisait du mal à l'autre. En pensant du bien de lui, sans même qu'on s'en rende compte, on va avoir une attitude meilleure, et du coup ça va peut-être le toucher, peut-être, pas forcément, le toucher, peut-être le convertir. Bref, en aimant nos ennemis, nous devenons nous-mêmes meilleurs, et nous nous rendons capables d'aller au ciel, parce qu'au ciel on sera tous ensemble, donc au ciel il n'y a pas d'ennemis, vous avez bien compris. Donc s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas supporter sur cette terre, c'est pas possible d'aller au ciel, vous comprenez. Alors maintenant, peut-être certains sont encore avec des sentiments forts contre des personnes parce qu'ils ont beaucoup souffert. Le Seigneur ne nous dit pas d'aimer nos ennemis dans l'instant, dans la seconde. Il sait qu'il y a un chemin, que ça prend du temps. Quand Joseph a dû pardonner ses frères qui lui ont mis en tôle, il a mis plus de 20 ans à y arriver, plus de 20 ans. Et encore, quand il les voit, il ne leur a pas encore pardonné. Il va encore faire un chemin, je ne vais pas rentrer dans le récit, mais on voit qu'il fait encore un chemin pour arriver à leur pardonner. Et encore, quand il leur a pardonné, quand le papa meurt, les frères ne sont pas sûrs que Joseph leur a pardonné. Donc ils vont le voir pour lui dire, pardonne-nous, ton père nous a dit que tu devais, avant de mourir, que tu devais nous pardonner. Donc ils ne sont même pas sûrs que Joseph ne leur a pas pardonné pour faire plaisir au papa. Vous voyez que c'est complexe, toute cette notion de pardon. On n'est pas toujours sûr que le pardon soit donné, mais le Seigneur nous aide à aller vers un pardon parfait parce que lui-même nous a appris à pardonner sur la croix. Voilà, maintenant je vais demander à Benoît de venir pour donner son témoignage, ou plutôt le témoignage de son fils Stanislas.
Merci Père. Bonsoir à tous. Donc, le 28 février de l'année dernière, notre fils Stanislas a été renversé par une voiture à 70 km/h. Pour tous ceux qui ne sont pas scientifiques, ça fait l'équivalent de tomber du quatrième étage directement sur le sol. Il est inanimé, il tombe dans un coma extrêmement profond, un des comas dans les 5% les plus graves. Il y tombe de façon naturelle, puisque 95% des gens y tombent de façon artificielle. Donc voilà, pour vous dire la gravité de cet accident. Il est emmené tout de suite à Necker, opéré. Il a un hématome extrêmement lourd dans le cerveau qui lui écrase le cerveau et qui menace de faire exploser son cerveau. On n'a évidemment pas le choix que d'accepter une opération qui est évidemment en tant que telle extrêmement dangereuse, puisque sa vie est en jeu. Mais évidemment, on n'a pas le choix. Quelques heures après l'opération, c'est a priori bien passé, mais évidemment, on nous annonce que la première IRM a été faite. Son cerveau connaît des lésions profondes, diffuses, jusque dans le tronc cérébral, qui est le siège de la capacité du corps, qui régit plutôt, excusez-moi, tout ce qui est nécessaire à la digestion, la respiration et au rythme cardiaque. Donc on nous annonce effectivement que voilà, ces chances sont extrêmement limitées. Évidemment, vous connaissez les médecins, ils ne se prononcent pas beaucoup. Les jours qui suivent, évidemment, nous mènent dans une attente extrêmement douloureuse. Nous confions évidemment notre fils au Seigneur. Autour de nous, un élan de charité et de prière qui nous a très très largement dépassés et dont certains d'entre vous ont peut-être fait partie. C'est un élan de prière qui a été évidemment parisien, national, même international. On a eu la chance d'avoir des amis qui ont prié pour nous, des amis chrétiens du Japon aux États-Unis, au travers d'un petit WhatsApp que mon épouse a décidé de lancer. Pareil que certains d'entre vous ont peut-être suivi pendant tout le carême de l'année dernière, où on a effectivement, notre but premier n'était pas de faire parler de nous, mais était avant tout d'abord par charité pour les gens qui priaient pour nous, de donner des nouvelles et puis de le lier avec des choses simples que nous puisions dans l'Écriture sainte autour de ce carême. Quelques éléments, le 9 mars, alors qu'effectivement il n'a tout évidemment toujours pas retrouvé la conscience, qu'il est encore en réanimation, il se désentube alors qu'on a l'impression qu'il n'a pas de conscience. Il arrive à survivre sans intubation respiratoire pendant toute une nuit, ce qui est déjà une surprise pour les médecins. Le 16 mars, il y a un staff, donc staff médical dont on aura eu connaissance plus tard, dont on sait qu'effectivement il commence à se prononcer sur la nécessité de réanimer. Alors étant chrétien, nous avions annoncé aux médecins que voilà, la vie ne nous appartenait pas, la vie de notre enfant ne nous appartenait pas, donc nous n'étions pas pour l'acharnement thérapeutique. Si son heure était venue, évidemment nous les laisserions partir, mais il y avait aussi des lignes rouges que nous ne franchirions pas de l'autre côté, puisqu'encore une fois, la vie ne nous appartient pas. Et là, mon épouse demande à Stan, qui est donc évidemment d'apparence inanimée, lui dit voilà, il est temps que tu donnes un signe, fais quelque chose. Et on a à ce moment-là, je me retrouve seul, si ça veut dire que ce signe va m'être donné, où je claque des doigts devant ses yeux pour essayer d'obtenir des battements de paupières. Rien ne vient du côté des paupières. Les médecins n'arrêtent pas de lui dire, essaie de serrer la main pour dire si tu es là. Je me dis, s'il a le neurone qui dit le verbe serrer dans son cerveau et qu'il a explosé, je ne sais pas comment il va pouvoir vous répondre. Et donc, en claquant des doigts, tout d'un coup, je claque deux fois et il claque deux fois des doigts. Voilà. Donc, ce premier petit signal est envoyé à l'issue d'une neuvaine à Saint-Joseph qui, ça ne vous surprendra pas, se termine le 19 mars. Après, le 26 avril, à l'issue d'une autre neuvaine, il va murmurer « Maman ». Donc là, c'est évidemment une grande surprise pour nous, puisqu'on nous avait annoncé qu'il ne dépasserait pas au mieux l'état qu'on appelle végétatif, c'est-à-dire un état où la personne n'a normalement même pas de conscience. Donc là, évidemment, le doute commence à se lever assez largement dans l'esprit des médecins. Déjà, Stanislas a vaincu le pronostic des médecins. Un autre élément, c'est l'IRM dont je vous ai parlé, effectivement, qui donnait des lésions profondes, diffuses. Le cerveau, en fait, les lésions dans un cerveau n'apparaissent pas. Elles apparaissent toujours au niveau de l'IRM. Quand le cerveau les surmonte, en fait, il recrée des connexions autour de ces lésions. Il s'avère que l'IRM du mois de juin va faire apparaître, donc il va être fait par le même neurochirurgien que celui qui l'aura opéré au moment de son accident, et fait apparaître qu'en fait, il n'y a plus plus de lésions qui apparaissent. Il apparaîtra juste une toute petite tache, mais absolument minime. Il en conclut qu'effectivement, il n'a jamais vu ça. Il ne sait pas quoi dire et il dit qu'effectivement, son travail s'arrête là. On est en juin. Donc Stanislas va progressivement commencer à reparler. Il revient le dimanche à la maison. Et Pentecôte de l'année dernière, alors qu'on se partage pour aller à la messe de façon alternative en famille, alors qu'il n'a été que dans la capacité, quand il s'exprime, de répondre à oui ou non ou de répondre à des questions fermées, il en fait délivre son premier récit que je vais recueillir, qui redonnera à mon épouse quand elle reviendra de la messe de Pentecôte, et qui va effectivement être son expérience, une expérience de mort imminente. Vous imaginez bien que cet enfant de 12 ans n'avait jamais entendu parler des expériences de mort imminente et qu'il n'était pas non plus dans un état psychologique pour inventer. C'est son premier récit qui va durer 30 minutes. Je vous donne quelques faits saillants. La première, c'est qu'effectivement, pendant son accident, il a vu le Christ baigné de lumière qui avait porté sur lui ses blessures. Et Stanislas a voulu s'approcher de lui, le Christ lui tendait les bras. Donc je me suis dit, bon, il va lui dire, Jésus, tiens, referme les bras sur lui. Voilà, ça va être une belle histoire. Et en fait, Jésus, qui portait aussi les propres blessures de Stan, c'est-à-dire une au front et une sur la cuisse où il était très largement ouvert, en fait, va lui dire, non, je ne peux pas te prendre dans mes bras, tu vas retourner sur terre, ce n'est pas ton heure n'est pas venue. Première chose. Deuxième chose, il verra ma grand-mère qu'il avait connue, qui était décédée à l'âge de 96 ans, et à la question évidemment très curieuse que je lui pose, je lui dis, mais à quoi ressemblait grand-maman ? Elle était vieille ou elle était jeune ? Et pareil, une phrase, je pense qu'un enfant de 12 ans ne peut pas trop inventer, il dit, en fait, elle avait à peu près son visage de quand elle était vieille, quand elle était morte, mais elle était tellement resplendissante de lumière qu'elle apparaissait comme jeune. Voilà, je me dis finalement, il met des mots de façon assez évidente sur ce qui est l'au-delà. Évidemment, il fait part d'un immense bonheur à l'état pur, palpable, presque matériel, tellement fort, tellement prégnant. Et il nous dira, voilà, je suis content d'être, papa, maman, je suis content d'être venu parmi vous. C'est évidemment du plaisir, mais qu'est-ce que je préférerais être resté là-bas. Et un dernier élément, c'est une expérience aussi, il a fait expérience de ce qu'on appelle des expériences de mort imminente négative, puisque effectivement il a aussi vu l'enfer. Et il dira aussi une phrase qui, voilà, encore une fois, un enfant de 12 ans, je pense, ne peut pas inventer. Il dit, il y voyait des gens armés. Il dit, ces gens-là ne s'aimaient pas, ils ne s'aimaient pas entre eux, ils aimaient leurs armes. Voilà. Donc Stanislas, aujourd'hui, va remarcher. On a rendu son fauteuil il y a quelques jours. Voilà, c'est une évidence, il est encore en déambulateur. Il a des petits troubles de mémoire encore, mais il a repris l'école. On ne sait pas quel sera son handicap ultime, mais c'est évidemment déjà un miracle. Et ça va sans dire, mais son cœur s'est évidemment très largement tourné vers Dieu. Et il rayonne dans notre famille et au-delà. Au-delà, puisqu'effectivement... Au-delà, puisque effectivement, nous connaissons dans notre entourage, je n'en citerai que quelques-uns, des débuts de conversion. J'ai un ancien collègue du travail, voilà, qui se retourne, qui revient progressivement vers Dieu et qui va chercher peut-être progressivement à demander le baptême pour sa fille. Voilà, nous prierons ce soir pour Franck et Violette. Nous avons deux très bons amis qui nous avaient promis que si Stan guérissait, ils demanderaient le baptême de leur fille. Voilà, ils nous ont demandé, cette petite fille, Charlène, va se préparer au baptême l'année prochaine. Nous serons le parrain et la marraine, mon épouse et moi-même. Une personne au moins, dans cette assemblée, a été touchée par une parole de connaissance. Alors c'est assez étonnant parce que cette parole de connaissance a eu lieu le 16 mars au soir, qui devait donc être un jeudi, et qui est en fait le jour où Stanislas est sorti du coma. Je vous lis ce que dit cette amie de mon épouse. Une des amies de l'équipe Notre-Dame de Catherine a entendu qu'un petit garçon venait de sortir du coma et avait vécu une expérience spirituelle incroyable. La seconde fois, c'était le 23 mars, donc une semaine après, j'y étais et la parole était que des parents qui avaient beaucoup prié pour la guérison de leur enfant et avaient gardé confiance dans l'amour du Seigneur allaient être consolés. Le Seigneur ne les oublie pas. Il s'avère que voilà, cette dame recevait le WhatsApp, a fait le lien entre notre histoire et cette parole de connaissance qu'elle a entendue ici. Et cette parole de connaissance, enfin, cette corrélation entre les deux, je le comprends, a été quelque chose d'assez refondateur dans sa vie. Il s'avère qu'effectivement, cette parole de connaissance m'avait été mentionnée aussi par mon frère qui vit à Nantes et qui ne pratique pas les assemblées de prière charismatique, qui est très chrétien, mais qui est plutôt traditionnel. Pour terminer, trois petites conclusions. La première, c'est évidemment la force de la prière et de l'abandon. Voilà, c'est quelque chose dans lequel on s'est tout de suite livré. On a vécu pendant ces deux mois où l'existence de Stanislas était compromise. On a vécu à la fois des moments extrêmement douloureux, mais aussi des moments d'extrême grâce où on a senti qu'on était porté par quelque chose d'extrêmement fort, par la prière de toute cette communauté chrétienne, de tous nos amis. Et ça a été même presque deux mots. Parfois, on pleurait de joie avec mon épouse. On se disait, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas raconter. Voilà. Ce soir, évidemment, on peut le raconter, qu'on pleurait aussi de joie, même pendant ces moments où on n'était pas sûr que notre fils vive. Deuxième enseignement, le paradis, le père l'a dit tout à l'heure, je vais essayer de le dire encore plus fort que lui. Le paradis, c'est voilà, le bonheur qui nous est promis. Souvent, on a un peu tendance à penser que c'est un bonheur un petit peu ascétique, qu'il va falloir faire encore des efforts. Là, voilà, de cette expérience que Stanislas se raconte, le bonheur, enfin, notre vie de chrétien aujourd'hui, c'est pour un bonheur à l'état pur. Voilà, à l'état pur. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement palpable, d'extrêmement fort. C'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas quelque chose de fictif. C'est quelque chose, voilà, peut-être parfois, on n'en prend pas assez conscience que c'est vraiment le bonheur. Voilà. Et troisième, et je terminerai par là. Les guérisons et les miracles, ce miracle, voilà, on croit que toujours le miracle c'est pour les autres. Ben voilà, un jour ça nous tombe dessus et quelque part c'est un cadeau empoisonné. C'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau difficile à porter. Alors évidemment vous vous dites, bah oui, lui il a eu de la chance, son fils a été sauvé. Oui, on a eu de la chance. Oui, on a eu une grâce qui nous a été donnée. Elle va servir de témoignage. Mais je peux vous assurer que cette guérison, ce miracle qui a concerné notre famille, nous oblige et nous met en face de notre indignité. Tous les jours, je me dis, mais qui sommes-nous ? Qui suis-je pour avoir mérité ? D'ailleurs, je ne l'ai même pas mérité, ce miracle. Voilà. C'est donc toujours pour nous rappeler que ces miracles sont pas là en tant que tels pour eux-mêmes. Ils sont là pour notre conversion. Et quand Stan me dit, mais est-ce que tu me crois quand je te raconte ce que j'ai vu dans l'au-delà, je lui dis, tu sais, en fait, j'ai pas besoin de croire à ce que toi tu me racontes. L'essentiel, c'est que je crois à ce que tu as vu. Voilà. Donc, et je terminerai par là. Voilà. Le plus important, c'est, je crois que le père me contredira si je dis faux. C'est Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix qui disait, voilà, recherchons le Dieu des consolations et pas les consolations de Dieu. Merci.